Bien ici, bien chez vous, une émission proposée par Bien ici sur Radio Immo.
Eh bien, salut les amis, comment allez-vous? Ben écoutez, moi je vais plutôt bien, je suis très heureux parce que je suis ici à Lille. Voilà, on est ici à Lille, il y a des Lillois, bien évidemment, il y a des gens du Nord et on va les entendre dans pas longtemps. Regardez, écoutez ça. C'est un défi que l'on vous donne. Voilà, ici à Lille, on a la pêche et on a la passion chevillée au corps et notamment la passion du territoire et la passion de l'immobilier. Chaque mois, on fait le tour de France de l'immobilier avec nos amis de Bien ici. L'idée, c'est de vous faire découvrir la ville avec finalement une vision à la fois poétique, historique et de vous dire que ces villes sont résolument tournées sur l'avenir. En tout cas, bienvenue dans la capitale des Flandres. Je vais essayer de... Je vous ai écrit un petit édito. Je vais essayer de le faire à la façon des grands professionnels. Lille, c'est la capitale de la Flandre romane, cet ancien territoire du comté de Flandre. C'est une ville d'eau. Elle est née de l'eau. D'ailleurs, le nom vient du latin insula. Île. Née effectivement de la Deule, cette rivière secondaire au débit modeste, mais située sur un axe important entre les grandes villes flamandes et les foires de Champagne. C'est la 10e commune la plus peuplée de France, 5e agglomération si l'on compte la métropole, derrière Paris, Lyon, Marseille et Toulouse, 4e pour son aire d'attraction qui compte aujourd'hui 1,5 million d'habitants. Mais Lille, c'est une ville qui compte en France, au-delà des frontières, une vaste conurbation. Vous savez, conurbation, c'est une conjonction finalement d'autoroutes, de routes avec l'Europe et notamment transfrontalière, avec par exemple Mousseron, Courtrai, Tournai, Menin, ce qui a donné naissance d'ailleurs en janvier 2008, vous le savez, naissance à l'Eurométropole, l'île Kortrijk. Alors j'y suis jamais arrivé, hein, l'île Kortrijk-Tournai, premier groupement européen de coopération territoriale qu'on appelle le GECT, qui totalise aujourd'hui plus de 2 100 000 habitants, ce qui donne envie d'ailleurs à certaines autres régions, bien évidemment. Mais Lille, c'est aussi un centre culturel. C'est un centre culturel important, un carrefour des aires picardes et flamandes, où on est fier de parler le picard et fier de parler le flamand, bien évidemment. C'est vraiment un melting pot dans l'Europe. Lille, c'était une ville de garnison, comme l'en atteste d'ailleurs sa citadelle, qui a connu une histoire, on va le dire, souvent mouvementée, très souvent assiégée. Elle a successivement appartenu au Royaume de France, à l'État bourguignon, au Saint-Empire romain germanique, aux Pays-Bas espagnols, avant de revenir dans le giron de la France sous Louis XIV. Mais Lille, c'est surtout une société marchande, une ville marchande. Depuis ses origines, une société manufacturière qui, depuis le XVIe siècle, a su intégrer la révolution industrielle, qui a renforcé d'ailleurs ses capacités. Avec l'industrie textile, qui était une des plus grandes industries au monde, l'industrie mécanique, puis reconversion vers le secteur tertiaire dans les années 90. Clairement, Lille attire, en témoigne l'arrivée du TGV en 1993, l'Eurostar en 94, et en témoigne également la braderie de Lille. Qui n'a pas connu la braderie de Lille? Franchement, c'est extraordinaire. Chaque année, qui attire entre 2 et 3 millions de visiteurs. Enfin, Lille, c'est d'abord une ville étudiante majeure, c'est la 3e ville étudiante en France, derrière Paris et Lyon, une ville qui rassemble 110 000 étudiants, c'est énorme, dans les murs et qui, finalement, partagent aujourd'hui avec le talent qu'on connaît, les grandes facultés aujourd'hui qui sont ici à Lille, notamment la faculté catholique qui a une réputation mondiale et européenne. C'est une ville d'art et d'histoire, capitale européenne de 2024, capitale mondiale du design en 2020. Lille a des atouts et se déploie devant nous ce soir. C'est une chance que nous n'allons pas manquer. Je vous propose, les amis, de découvrir un peu votre ville en images.
La ville de Lille, un carrefour de dynamisme et de jeunesse, avec une population de 238 847 habitants en 2024 et une métropole européenne de Lille, la MEL, qui regroupe 1 187 907 habitants répartis sur 95 communes. Un territoire attractif dont la densité de population à Lille intramuros est d'environ 6700 habitants par kilomètre carré, et de 1748 habitants par kilomètre carré à l'échelle de la métropole, ce qui la place en seconde position des agglomérations les plus denses de France. Lille et sa métropole incarnent une vitalité et une diversité qui n'ont cessé de croître ces dernières années. À Lille, la jeunesse est au cœur de la ville, avec un âge moyen de 34 ans et une population étudiante qui représente un quart des habitants, apportant un souffle de fraîcheur et un esprit d'innovation. Lille, c'est aussi un réseau de transport en commun bien développé qui inclut le métro, le tramway et le bus et qui offre une accessibilité optimale avec des abonnements réduits, notamment pour les étudiants. Enfin, Lille, c'est une ville à la fois historique et résolument tournée vers l'avenir. Elle s'impose aujourd'hui comme une métropole où la tradition et la modernité cohabitent harmonieusement. La braderie de Lille, par exemple, c'est l'un des plus grands marchés aux puces d'Europe. Il continue de rassembler chaque année des visiteurs de toute la France et d'Europe entre musique, gastronomie et vie nocturne. Avec une ambiance festive unique et un ancrage culturel fort, Lille et sa métropole s'imposent non seulement comme un lieu de vie agréable, mais comme un véritable lieu de croissance pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans l'avenir. Alors à tous, bienvenue à Lille.
Voilà un reportage signé Grégoire Daricot avec le concours d'Alexandre Burkhardt, notre directeur artistique. Voilà, l'idée c'était de vous proposer à toutes et à tous, et voyez, vous qui êtes derrière vos écrans, vous vous dites, voilà, Lille c'est vraiment une très très jolie ville, je vous encourage, venez ici, venez investir à Lille, vous installez, on a une très très belle région et la France a un incroyable talent, je sais c'était facile, mais il fallait le dire quand même. En tout cas, on est ravis d'être ici, on va parler maintenant très concrètement de l'état du marché pour vous montrer que c'est une ville dynamique et qu'on fait de l'immobilier ici. C'est parti pour la séquence l'état du marché, tout de suite après ça.
Bien ici, bien chez vous, l'état du marché.
Voilà, reprise ici à Lille pour parler de l'état du marché et je vais présenter d'ailleurs également ceux qui vont partager ce moment avec nous pour aussi nous donner leur vision de leur métier, leur vision de l'immobilier. Bonjour Régis Sébille.
Bonjour.
Bonsoir plutôt, comment
bonsoir,
ça va
oui, bonsoir. Bonsoir Sylvain, ça va très bien et vous?
Voilà, le monsieur Data, de bien ici. Voilà. Voilà, grâce à vous, chiffres. On arrive à se repérer parce que les chiffres sont têtus et les chiffres, vous les avez en main.
Je les ai en main, je les ai même sous la main là. Et on va parler de Lille avec une situation plutôt intéressante justement par rapport au niveau national.
Et on est justement très attentif. Voilà, un grand monsieur de l'immobilier également est avec nous, c'est Olivier Leplat. Comment ça va Olivier?
Bonsoir.
Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la Brineur.
Exactement.
Merci d'avoir accepté. Alors, je sais que ce n'est pas un exercice que vous aimez particulièrement, mais, on est ravis d'être avec vous pour nous parler également de votre activité et de votre marché. Bonsoir également Adrien Vacheran.
Bonsoir Sylvain, merci de m'accueillir.
Voilà, vous êtes le bienvenu, on est heureux de vous recevoir. Vous êtes le directeur général de Vacheran Immobilier. Vous nous partagerez également votre vision du métier. Et enfin, on ne pouvait pas faire cette émission sans la légende de l'immobilier qui est avec nous. C'est toujours beaucoup de plaisir à partager avec lui, un grand monsieur. Il est avec nous, Philippe Descampiaux.
Bonsoir Sylvain, bonsoir à toutes et à tous.
Merci Philippe. Vous êtes en charge du développement de Citia Immobilier. Merci d'avoir accepté également de partager ce moment avec nous. Alors, mon cher Régis, quelle est la tendance, grâce aux data dont vous disposez, dont on a absolument besoin, la tendance ici sur ce marché aujourd'hui?
Alors, la tendance générale à Lille, en fait, ce qu'on va retenir surtout sur les derniers mois, les dernières années, c'est qu'on a plus de biens à vendre aujourd'hui à Lille que de biens à louer. C'est une tendance qu'on vérifie depuis 2 ans. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est sur une ville étudiante, une des principales villes étudiantes de France, avec 110 000 étudiants, et pourtant, on se retrouve avec à peu près 37% de l'offre dédiée à la location, en tout cas, alors que la location, si on regarde sur les derniers mois, on sort d'une période estivale très chargée, on était plutôt de l'ordre de 9 demandes sur 10 enregistrées par rapport à la demande lilloise, en tout cas. Globalement, sur l'offre de biens à vendre, elle a augmenté plus spécifiquement depuis le début de l'inflation. Et quand on regarde, même depuis début 2023, on est quasiment à un double de l'offre disponible, c'est-à-dire que pour les gens qui consultent les biens à vendre sur Lille, ils vont trouver 2 fois plus d'annonces immobilières sur les portails. Pourquoi 2 fois plus? C'est pas forcément 2 fois plus d'annonces ou de nouveaux biens, mais c'est des biens qui restent aussi un peu plus longtemps. Donc on a l'impression d'avoir cette offre qui stagne à un niveau assez haut depuis 2022 et surtout 2023. Au niveau des prix, globalement, on va avoir une petite tendance baissière depuis le début de l'année. On est dans un bon mouvement, si on veut donner des bonnes ondes, en tout cas à ce niveau-là, qui peut réjouir les acquéreurs. Mais on est surtout sur une tendance assez globale d'augmentation du prix au cours des dernières années. Si on regarde sur 5 ans en arrière, le prix moyen au mètre carré à Lille, il a augmenté quand même de 500 € environ au mètre carré, ce qui n'est pas rien pour les acquéreurs. Et globalement, si on résume la tension lilloise, on a parlé un petit peu de la location pour dire le gros volume de demandes par rapport à l'offre
tension,
disponible.
Plutôt
on a
extrême,
une tension
hein.
extrême, comme dans toutes les villes étudiantes, et c'est un cas qui est malheureusement très déplorable à Lille par rapport à toute la population étudiante qui cherche un logement.
Oui, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure avec vous, messieurs, puisque aujourd'hui, c'est presque désespérant. On a les parents d'élèves qui veulent trouver pour leurs enfants, ce qui est normal. Ingénieurs qui vont à la Falcato, par exemple, et qui font le siège littéralement des agences. Et même, des fois, on ne sait plus quoi leur dire. On met une annonce, on peut avoir, c'est pas rare de voir pour une annonce à la location, on en parlera tout à l'heure, plusieurs dizaines, voire centaines de dossiers.
Exactement.
Je crois qu'on avait battu le record, il me semble, Régis, on était sur une offre à la location, on avait reçu 431 dossiers dans la matinée. Enfin, un truc absolument, absolument fou. Et comment se porte justement le marché transactionnel et l'état des lieux que vous faites justement ?
Alors, le marché transactionnel, on l'a dit tout à l'heure, il y a une hausse de l'offre en tout cas. On est globalement à plus 80% d'annonces diffusées mensuellement par rapport à ce qu'on pouvait avoir dans les meilleures années. Donc, il y a eu un effet inflation et augmentation des taux de crédit qui a fait que le pouvoir de financement et d'achat, au final, a un peu baissé et ralenti la transaction. Donc, derrière, on a une offre qui augmente de façon assez importante et une demande qui est à Lille, là, très intéressante parce qu'elle continue de progresser sur les dernières années. Et ce qu'on retrouve encore sur l'année 2024 par rapport à l'année 2023, on a encore une progression de plus 6% en tout cas. C'est ce qu'on constate sur Bien Ici. On a un gros volume de demandes malgré tout. Même si l'offre augmente, la demande augmente aussi.
Alors, on peut dire, même sur le plan de la transaction, puisqu'effectivement, ça a plutôt bien résisté dans la période très tourmentée qu'on connaît maintenant pratiquement 24 mois. C'est donc un marché clairement en tension, on est d'accord ?
Alors, en tension, je ne dirais pas en tension, c'est plutôt détendu par rapport au niveau de l'offre. C'est-à-dire
oui.
qu'on a beaucoup d'offres
oui.
par rapport à une demande qui augmente, elle, légèrement. Et du coup, cette tension redescend parce qu'on va
oui.
avoir plus de biens disponibles, plus de choix possibles. Mais néanmoins, le fait que cette demande progresse, on a un intérêt comme quoi ça peut bouger à Lille et on attend que ça reparte.
Alors, entrons dans le vif du sujet, justement, sur la typologie des biens, si vous voulez bien. Comment évolue aujourd'hui l'offre et la demande, notamment sur le T3 2024, et justement sur les typologies ? Est-ce que, par exemple, les surfaces sont toujours autant la cote ? Voilà.
Alors, sur les typologies, on a une répartition qui est assez équilibrée à Lille. On va avoir, en gros, si on regarde sur les petites surfaces, c'est de l'ordre de 13% de l'offre pour 11% de la demande ou 12%. Les T3, c'est pareil. Et on va avoir une demande de maison qui, elle, sera un peu plus importante que l'offre disponible. Mais c'est assez logique parce que le besoin de maison a davantage grandi depuis la crise sanitaire et reste très important aussi et ancré dans les familles. Donc, on a toujours une part plus importante de demande sur les maisons. Mais globalement, le niveau est équilibré entre l'offre et la demande disponible.
Plutôt équilibré.
Donc, on est sur un marché qui n'a pas de pénurie, en tout cas.
Okay. Donnez-nous les prix.
Ah, les prix, c'est toujours le plus
c'est
compliqué.
Combien
les prix, c'est combien ? Si on regarde sur l'ensemble des annonces qui sont diffusées actuellement, on est aux alentours de 3 900 € du mètre carré. Affiché en tout cas, je ne parle pas de prix négocié, et on va avoir deux tendances qui se différencient à Lille, avec d'un côté les T1 qui ont tendance à augmenter leur prix, en tout cas sur l'offre de studio qu'on peut consulter à Lille, les prix ont tendance à augmenter légèrement sur les deux dernières années, alors que sur les T3, ça a tendance à baisser. Globalement, on est sur de l'ordre de, j'avais compté à peu près 15 000 € en moins sur un prix médian
sur un T3.
Sur les T3 depuis le début de l'inflation. Oui.
D'accord. Alors, bien évidemment, on peut, comme dans toutes les grandes agglomérations, on a une première couronne, on a une périphérie. Où est-ce qu'on en est, là ?
Alors, par rapport à la métropole lilloise, excusez-moi, on est de l'ordre de 30 à 35% de la demande qui reste centrée sur Lille. Donc, on est vraiment sur des personnes qui cherchent à rester dans l'hypercentre. Et une demande qui repart, par contre, proportionnellement beaucoup plus vite sur des communes périphériques. En gros, si on regarde un petit peu la zone de la métropole lilloise, on va voir trois zones qui se dégagent en termes de prix, de demande et de marché. On va voir le côté de Lille-Centre, qui regroupe à peu près 30% de l'offre et de la demande, qui est toujours attractif. Et là où on va avoir des prix qui se maintiennent et qui peuvent résister, en tout cas sur les biens les plus prisés, On va avoir une zone nord-nord-est avec des prix un peu plus élevés, mais qui, eux, tendent à baisser sur cette année 2024. Et des zones un peu plus loin, notamment, et réglementées, comme Roubaix-Tourcoing, où les prix sont moins élevés et on a moins de demandes aussi.
Oui, et puis en plus, bon, effectivement, les prix ne sont plus les mêmes. Donc, du coup, on va dire que c'est un peu plus facile de trouver. Sur le locatif, on en est où ?
Alors, sur le locatif, c'est toujours aussi tendu. La demande, elle va être majoritairement dans l'île. L'île-centre et le Vieux-Lille aussi, qui est toujours oui. aussi prisé oui,
70%,
des étudiants.
Plus de 70% dans l'île. Hein.
Alors 70% des demandes sur la métropole de location ont lieu dans l'île par rapport aux communes périphériques. Et on a surtout un effet qui a été marqué depuis l'été 2021 avec une offre qui était divisée par 2,5 voire 3 et une tension qui explose avec ces 110 000 étudiants qui ont besoin de logement.
Alors justement, la typologie des biens loués, justement, si on prend l'ensemble.
Alors globalement, on a un marché qui est très centré sur les étudiants avec 77% de l'offre qui concerne les petites surfaces.
Ouais, c'est très visible hein, quand
Donc
même.
Donc hein. On est vraiment sur un marché qui est de petites surfaces T1.
77%, c'est énorme.
Bah, 77%, c'est énorme et c'est très, très en lien avec l'île et ses
Bien sûr, la configuration démographique de la ville oui, et le fort pourcentage d'étudiants.
Et on va voir de l'autre côté par rapport à cette offre étudiante un loyer qui reste un peu plus abordable que dans d'autres villes concurrentes que vous avez citées tout à l'heure sur les principales villes étudiantes. Et on est de l'ordre de, j'avais pris mes petites notes, de 550 euros en gros sur un loyer moyen de studio à Lille aujourd'hui. C'est à peu près 50 euros d'augmentation. Alors je parle charges comprises sur le loyer affiché, ce que va payer le locataire, c'est à peu près 50 euros d'augmentation sur l'année avec une offre qui baisse, évidemment.
Alors effectivement, tous ces chiffres-là, bien évidemment, on va en parler avec vous, messieurs. Si on devait faire une petite conclusion, on voit quand même que le territoire reste toujours aussi attractif, bien évidemment.
Alors ce qu'on retient, c'est surtout cette demande qui ne baisse pas. On va avoir un intérêt voilà. qui reste
Malgré
là.
La tourmente. Hein.
Alors, si la transaction ne se fait pas, on était dans un marché attentiste depuis l'inflation, avec des ventes qui mettaient plus de temps à se faire parce que contraintes de financement ou être sûr, en tout cas, d'avoir le budget nécessaire pour pouvoir acheter ce dont on rêve, souvent pour un achat immobilier. Et à Lille, on va avoir ce phénomène qu'on n'a pas forcément dans les autres villes françaises, c'est-à-dire que l'intérêt pour les annonces diffusées l'envie d'immobilier est toujours là et on remarque en tout cas des contacts qui se font toujours sur les annonces qui sont diffusées.
Merci beaucoup Régis, toujours intéressant. Et d'ailleurs, on va certainement, bien évidemment, échanger avec nos invités. C'est l'heure maintenant du grand débat.
Bien ici, bien chez vous, le grand débat.
Voilà, de retour sur le plateau, venez à Lille. Voilà, à Lille, on a vraiment chevillé au corps la passion du territoire avec Olivier Leplat, président d'Abrinor, Adrien Vacheron, directeur général de Vacheron Immobilier et bien sûr Philippe Descampio, en charge du développement de Citia Immobilier. Je vais commencer par vous, Olivier. Réaction sur les chiffres qui ont été présentés par Régis et de votre point de vue, vous en tant que patron d'Abrinor, comment vous voyez un petit peu les choses, comment vous réagiriez par rapport à ces tendances que l'on a maintenant développées ?
Moi, ce serait un petit peu plus nuancé parce que pour l'année 2024, au sein de notre réseau, on a accentué nos ventes sur l'île Intramuros par rapport à 2023. Par contre, je suis vraiment en phase, c'est sur le nombre d'offres. Janvier 2023, on tourne à peu près à 300 biens sur notre site web. Là, on tourne toujours depuis juin 24 entre 500 et 530 biens. Donc effectivement, je suis à 60% d'offres en plus visibles sur le site. Mais le changement par rapport à 2023, c'est que l'offre était là, la demande était là, mais effectivement, ça corrobore vos données, c'est-à-dire qu'on était sur une clientèle attentiste. Et 2024, la baisse des taux et également le problème des taux d'usure pour les primo-accédants a quand même décoincé le marché de l'immobilier sur l'île. Et nous, la moitié de nos ventes sur l'île intramuros sont ressorties sur des budgets inférieurs à 200 000 euros.
C'est vrai que la révision du taux d'usure qui est passé sur un rythme mensuel a quand même beaucoup détendu le marché dans une certaine mesure.
Nous, ça a détendu vraiment le marché sur les produits destinés aux primo-accédants. Et on a toujours eu ce blocage sur 2023-2024, mais qui commence à se détendre. comme on avait une absence de primo-accédant, la seconde accession était forcément bloquée aussi, et etc., etc. Donc on sent depuis juin dernier qu'il y a une détente au niveau du marché et on commence à retrouver ce qu'on appelle nos ventes en chaîne, donc avec une reprise.
Est-ce que vous faites la corrélation entre les baisses successives annoncées par la BCE de 0,25 points et la reprise timide, mais des indicateurs qui vous font penser que le marché est en train de se redéployer?
Pour moi, c'est un tout. C'est pas que la baisse des taux qui suscite l'intérêt. Je pense qu'également, c'est quand même une crise qui est longue par rapport à celle de 2008-2009 où on avait connu une reprise assez dynamique et assez rapidement.
Bien sûr.
Même si elle avait été brutale. Là, on est vraiment sur une crise qui est lente et vicieuse puisque ça fait deux ans sur lesquels on est sur une clientèle qui a du mal à se loger. Le marché locatif est compliqué et il est compliqué d'accéder à la propriété. Donc là, on est vraiment sur une crise du logement, ce que vous aviez indiqué tout à l'heure, sur le problème du mal logement et du mal logé.
C'est un vrai sujet. On parlera d'ailleurs des chiffres. Ils n'ont fait que s'aggraver, sans compter la dégradation du pouvoir d'achat par rapport aux valeurs du prix de l'immobilier, puisqu'en fait, on a deux courbes qui sont complètement antinomiques. Hein. C'est un peu le... Voilà, on a des prix de l'immobilier qui ont grimpé, on a des salaires qui n'ont pas suivi, des revenus qui n'ont pas forcément suivi. Adrien, une impression sur ce qui a été échangé ?
Non, je suis... déjà, c'est sympa de voir ces statistiques, parce que nous, on a toujours une vision un peu micro de ce qui se passe dans nos agences, mais on n'a pas forcément toujours ces données globales, donc c'est hyper intéressant. Chez nous, c'est relativement en phase avec les statistiques générales. Sur l'augmentation du nombre de mandats, je dirais même que c'est encore plus significatif. Olivier parlait d'une augmentation de 60% chez Abrinor. Chez Vacheron Immobilier, on est sur l'île intramuros en tout cas. Oui. Alors, je dirais que cette augmentation de 40-50% sur nos agences périphériques, oui. Mais sur l'île intramuros, moi, je pense que ça a doublé, voire plus que doublé mandats. Parce qu'effectivement, en 22, début 23, quand le marché était encore dynamique, l'immobilier était très liquide. On gardait nos mandats 8 jours, on avait 10 acquéreurs pour un bien. C'était la belle époque. Et aujourd'hui, effectivement, comme la durée de vente s'est nettement rallongée, aujourd'hui, on a, je pense, sur l'île intramuros, deux fois plus de mandats qu'il y a deux ans.
Merci, Adrien. Justement, Philippe, on a la chance, vous et moi, d'appartenir à une génération où des crises, on en a vu quelques-unes. Est-ce qu'on peut présager, compte tenu de ce qui a été échangé, l'idée d'une reprise, sans faire de la méthode Coué, encore une fois, hein. Est-ce qu'on a là, on va dire, un échantillonnage d'indicateurs, même si c'est plutôt vert pâle, oui, ou rouge, ou plutôt, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire pour analyser cette crise, puisque, in fine, bien évidemment, on voit bien que les professions, la chaîne des métiers de l'immobilier, hein, il y en a 27 hein, qui sont répertoriés, a été quand même sévèrement ébranlée et pas un métier n'a été épargné. Bien évidemment, les métiers de promoteurs ont été les plus ciblés, mais je peux parler également des aménageurs privés qui ont beaucoup souffert également.
Oui, alors, beaucoup de choses ont été dites. Si on résume les 25 dernières années, une hausse permanente des prix de l'immobilier, une baisse permanente des taux d'intérêt. Petite crise en 2008-2009, subprime, et bon, voilà, on remet un peu. Et puis derrière, on continue, on a eu des dossiers à 0,7%, c'est-à-dire des taux sur 20 ans à 0,7%. Donc, derrière une hausse violente, je dis bien violente des taux, avec l'inflation, la guerre Ukraine, les matériaux, tout ça, le taux d'usure où les banques ne prêtaient plus, puisqu'elles ne pouvaient pas perdre trop d'argent. Je disais avec humour qu'elles avaient démonté leurs enseignes, comme ça on ne savait plus où elles étaient. Et puis aujourd'hui, ce taux d'usure, on n'en parle plus, puisque le plafond est bien, bien au-dessus de ce qu'il en est. On a une baisse. Alors, si je remonte en 90, il y a eu une crise qui a duré 10 ans. C'est-à-dire que quand en 96-97, on voyait un vendeur, on lui disait « Vous avez acheté en 89 ?» On va peut-être encore être en dessous du prix de ce que vous avez acheté. Il faut juste s'en souvenir. Néanmoins, il faut être optimiste parce que acheter, c'est quand même réaliser un rêve. C'est changer de région, c'est un couple qui se constitue, c'est quand même des éléments de vie où on ne peut pas retarder pendant 10 ans le sujet. Donc l'envie, elle est en train de revenir. n'y avait plus personne qui avait... Quand on achète, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de voir quel est son budget. On ne peut pas avoir accès à son budget. Le banquier, il dit, ce n'est pas le moment. Tout ça, c'est terminé. On a même maintenant des communications sur le JT. Je ne citerai pas, mais prenez la une ou la deux. Hein, où à 20h30, on vous fait de la publicité pour les octrois de prêts. Ça montre bien que les banques, ce n'est pas encore open bar, hein, oui. Mais elles recherchent à capter. Et les courtiers commencent aussi à avoir quand même beaucoup de personnes qui les consultent. Donc je suis assez optimiste, mais comme dans un bouchon, la voie n'est pas libre. C'est-à-dire qu'on roule de nouveau, je pense depuis, certains diront février-mars, d'autres diront juin. La période...
LGPS dit, c'est bouché.
La période des élections ne nous a pas rendu service, hein, clairement, dans ces zones d'incertitude. Et puis, ces baisses de taux, comme ça a été indiqué, nous permettent aujourd'hui d'avoir, je vais dire quand même, de bons espoirs. Beaucoup ont fait un mois de septembre correct. Certains ont fait des très beaux mois d'octobre. Donc, c'est encourageant. Mais moi, tant que je n'ai pas 3 à 6 mois de bons mois, je dis attention. Mais comme on n'a pas de production neuve, l'ancien restera cher. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait encore un peu de baisse de taux, mais réellement, il y a un marché qui est en train de reprendre. Et je me méfie quand même du fameux GPS qui me dit que c'est encore un peu bouché devant.
Merci beaucoup, Philippe. Alors, justement, on va essayer d'entrer dans le détail pour vous et vous donner les clés de compréhension. On sait que Lille, c'est une ville étudiante et que... Bien évidemment, les petites surfaces, mais comme dans les grandes métropoles, aujourd'hui, se louent extrêmement facilement. Et on va évoquer le marché locatif. Je voudrais juste vous donner 3-4 chiffres pour qu'on puisse nourrir la réflexion. Le reste à vivre, c'est-à-dire la charge contrainte que représente le logement dans le revenu du ménage, en 2022, était de 18,1% du revenu, globalement. Donc, je ne sais pas si vous avez vu le rapport INSEE 2024. Ce chiffre est passé à 26%. Très loin devant l'alimentaire. Donc aujourd'hui, on en est à manger ou payer son loyer. Donc c'est dur à dire. Mais ce qui est quand même éloquent dans l'étude qui a été faite, c'est qu'on a interrogé, on a fait un sondage, on a interrogé sur un échantillon représentatif de la population, les personnes, vous savez, vous l'avez dit tout à l'heure, qui se mettent en couple. 26% déclarent ne pas vouloir se mettre en couple tout de suite faute de logement. Mais ce qui est pire, c'est qu'un tiers des personnes répondantes disent « on diffère l'idée de faire un enfant », par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien que dans l'ADN, finalement, de la fabrique de la ville et du logement, qui est un marqueur social, où se définissent les projets intimes, les projets de vie, la relation au travail, la relation à l'emploi, le climat social, on voit bien que ça a des effets, justement, délétères. Et on voit bien, Adrien, que le marché locatif, justement, pour cette jeunesse, est quand même compliqué. D'ailleurs, c'est très intéressant quand on y réfléchit, puisque ces jeunes ont des difficultés aujourd'hui à entrer sur le marché locatif. Et quand on arrive à l'âge de la retraite, avec la chute de revenus de la retraite, on n'a plus les capacités financières à conserver ce logement. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, le marché locatif, notamment sur la cible des jeunes aujourd'hui et des jeunes étudiants en particulier ?
Le marché locatif à Lille, pour le coup, il est extrêmement compliqué. D'année en année, le stock s'est drastiquement réduit depuis 2020-2021. J'abonde complètement dans les statistiques que nous a données Régis. Et aujourd'hui, très clairement, c'est une horreur pour les étudiants lillois de se loger. Aujourd'hui, une annonce qu'on va paraître au mois de juin pour un studio à côté de l'Université catholique, par exemple, on la laisse en ligne 3 ou 4 heures maximum. Mmh. Parce qu'on a déjà 15 demandes à traiter.
Et oui, vous aussi, ça vous arrive d'être harcelé par les demandes. À la limite, on ne peut plus répondre.
Le standard de nos agences est complètement saturé l'été. On a déjà mesuré sur des juin, juillet, août, grâce à la magie de l'informatique aujourd'hui, plus de 5000 appels jour sur une agence.
C'est énorme. Est-ce que ça arrive que les gens...
Incompréhensible.
Est-ce que ça arrive que les parents d'élèves, je ne sais pas si vous l'avez vécu, traversent... Voilà, ils viennent désespérer en vous suppliant de trouver un logement pour leur enfant.
Non. Alors, supplier, on n'est peut-être pas là, mais
je caricature un peu, mais on n'est pas
loin. C'est un peu de la caricature, mais il y a des gens qui viennent dans nos cabinets, il est vrai, ils sont un peu en semi-détresse, déjà d'une part. Et puis moi, durant les périodes de location étudiant, effectivement, je me fais plein d'amis, je reçois des textos de cousins de cousins, d'amis d'un prestataire, de, enfin tout est permis. Enfin, honnêtement, dès que je peux rendre service, je le fais avec grand plaisir parce qu'on fait un métier de service, faut pas l'oublier. Mais effectivement, on se fait beaucoup d'amis pendant les périodes estivales grâce
mais
à
c'est
ce marché.
C'est le problème quand on est agent immobilier. Vous faites un dîner en ville, qu'est-ce qu'on vous dit ? T'as pas un bon plan pour nous ? C'est toujours pareil quand on. Parfois.
Voilà, c'est même c'est pas. T'as pas un bon plan. Ouais. Est-ce que tu peux loger mon fils ? Voilà.
C'est, ma fille, oui, mais c'est un sujet. C'est un sujet qui est un sujet d'envergure nationale. Et je peux vous dire que je prends le cas où de Bordeaux ou de la région centre. On est sur des sujets absolument équivalents. Est-ce que vous partagez le même raisonnement, Olivier ?
Alors nous, on ne fait pas d'administration de biens. On a réouvert au 1er octobre. Par contre, on a rebondi sur la demande locative pour loger des enfants étudiants en leur proposant justement d'acheter un appartement. Et effectivement, on a vendu beaucoup de petites surfaces en 2024 pour loger des enfants étudiants.
Est-ce que justement, avec le développement de l'immobilier opéré, hein, qu'on dit immobilier opéré, résidence étudiante ou résidence gérée pour aussi, et puis même l'habitat intergénérationnel qui se développe de plus en plus, est-ce qu'il n'y a pas là peut-être des alternatives de votre point de vue qui sont en train de se développer ?
Alors, sur la demande du co-living, ce sont des sociétés plutôt spécialisées qui essaient de développer justement sur l'île et plutôt pour une clientèle de salariés ou de jeunes qui arrivent sur le marché, moins pour la partie co-living sur la partie étudiante. Après, nous ne sommes pas spécialisés sur les résidences services et les résidences étudiantes, mais effectivement, on est sur un sujet dont on sent que c'est très tendu pour le marché locatif, puisque les parents sont prêts à acheter des appartements, même pour une année ou deux années.
On en parlait avec vous, Philippe. Lille est une ville de locataires.
Oui.
C'est pas une ville de propriétaires. Non. Vous m'avez dit un chiffre.
Il y a 26% de propriétaires, donc faites le calcul.
C'est juste énorme. Je crois que par comparaison, ça doit être certainement la métropole, une des métropoles les plus importantes dans lesquelles il y a un taux aussi élevé. Mais du coup, ça doit être. C'est un marché qui n'est nourri que par la pénurie, finalement.
Alors, il l'est depuis toujours, mais chaque fois, on se dit comment ça peut être pire. Ce que disait Adrien et Exa, des textos, j'en ai jamais autant reçu ces deux dernières années. On a beaucoup d'amis. Et même ces gens-là, on a du mal. C'est-à-dire que le marché est tellement tendu, on a voulu le réguler, on a voulu encadrer les loyers.
Parlons-en de l'encadrement des loyers. Depuis le temps que ça a été adopté, les premières études sont en train de sortir. Est-ce que vous constatez que ça crée une amélioration ?
Ah ben, il y a eu de la création de logements partout, dans toutes les rues, et on ne sait plus quoi en faire de ces logements. Ben non, ça n'a pas créé un seul logement. Il n'y a pas, parce que l'on encadre un loyer, une offre qui devient plus abondante. L'offre doit se créer par la réalisation, et le neuf n'est pas du tout en train de nous en amener, de nouveaux logements. Il ne faut pas oublier non plus que les modes de vie ont changé. Les mètres carrés par personne, un peu plus important qu'il y a 30 ans. Les typologies de chambres d'étudiants, il me faut mon studio. On est en couple, mais on a chacun notre appartement. Des cas comme ça, on en a plein. Et ça, c'est souvent des petites surfaces. Parce qu'il n'y a pas que la typologie d'étudiants pour les surfaces. Il y a aussi les jeunes travailleurs ou des personnes qui se séparent. Quand on a des contrats d'apprentissage, je fais mon stage pendant 3 jours en entreprise à Dunkerque et je suis à la fac à Lille. Il me faut 2 logements. Donc tout ça, c'est de la croissance de besoins et on n'a pas du tout anticipé et prévu cela. L'encadrement ne réglera jamais la pénurie des logements. C'est une évidence.
Alors, je peux vous dire une chose. Les premières statistiques qui ont eu lieu à Bordeaux, à Paris et aussi à Lyon démontrent en fait la parfaite inefficacité. Alors, ça dépend de la façon dont on lit l'étude, mais inefficacité parce qu'en fait, si on devait aujourd'hui fluidifier la demande de logement, il n'y a qu'une seule chose à faire. Est-ce que vous partagez cette idée ? C'est le volume. C'est créer du logement pour justement.
En économie, l'offre et la demande, ça s'enseigne en seconde.
Olivier.
Il y avait aussi une partie sur la partie promotion immobilière. La construction de logements neufs, les familles, sont souhaités dans le retour des. Enfin, au niveau des municipalités, ils veulent absolument qu'on construise des grands logements pour ramener des familles. Sauf qu'on est sur une métropole sur laquelle les familles vont plutôt à l'extérieur. Et ce qui nous empêche de construire des petites surfaces parce que les municipalités veulent absolument que toutes les familles habitent dans ces 4 pièces. Donc en plus, dans la production de logements neufs, on ne peut même plus faire de petites surfaces, des studios, des petits 2 pièces. C'est plus possible. Même là, c'est normé. Il faut qu'un 2 pièces fasse minimum 45 mètres carrés, etc. etc. Donc c'est la sortie de.
Mais là, c'est carrément de l'inflation normative. Ça a pesé lourdement sur votre façon de travailler.
Mais complètement. Et en plus, on a cette problématique de manque de logements de petites surfaces et qui ne sortiront pas par la programmation des logements neufs. Et sur le marché de l'ancien, on a en plus cette problématique avec les diagnostics des performances énergétiques qui font sortir toute une partie des logements dits énergivores du parc locatif.
Alors, justement, alors, je voudrais qu'on continue un peu sur la foulée. On a vu deux choses, hein, Philippe. On a vu une inflation normative qui a pesé lourdement. Juste pour vous donner une chose, juste sur la loi Elan. Vous savez, la loi Elan, on a la loi, si on la compare à périmètre constant sur les lois logement, la plus pléthorique de la Ve République. Pléthorique de la Ve République. C'est-à-dire que, grosso modo, c'est comme si vous disiez qu'on avait un texte qui faisait 5 cm et qui, en l'espace de 5 ans, en fait 50. Voilà.
Ça pourrait être... Il aurait battu la loi Allure ?
Il a battu la loi Allure très largement. Très largement. Et je ne vous parle pas des amendements, c'est vraiment une impossibilité. On voudrait casser une filière qu'on ne s'y prendrait pas mieux, justement. La rénovation énergétique est venue ajouter la norme à la norme. Alors, on ne dit pas qu'on est climato-sceptique, qu'on ne veut pas réduire notre empreinte carbone, ce n'est pas ce qu'on dit, parce que souvent on fustige les agents de l'Union en disant oui, vous, les capitalistes, vous voulez nuire à la planète, etc. Mais à un moment donné, il faut vraiment se poser la question. Quand on voit par exemple le moratoire, le calendrier sur le retrait des étiquettes énergétiques, là on se dit qu'il y a un vrai sujet. On est sur les mêmes effets. Est-ce qu'aujourd'hui, de votre point de vue également, la rénovation énergétique, il faudrait finalement s'y prendre un peu autrement.
Ne serait-ce que l'espace-temps. La filière automobile, on leur donne jusqu'en 2035 pour changer, pour passer au thermique.
Exact.
Et là,
il y a même un projet de rallonger de 3 ans, hein, 2038.
Oui. Là, la problématique, c'est qu'on est sur des appartements comme dans le Vieux-Lille, sur lesquels on a les ABF, sur lesquels on est sur des constructions qui ont plus de 200 ans, et on nous demande en 5 ans de changer, on va dire, le diagnostic de performance d'un bâtiment qui a 2 siècles. Donc c'est un petit peu une problématique. L'Élysée et Matignon ont un problème de DPE également. Et là, ça ne pose pas de sujet. Le sujet là d'un étudiant, c'est qu'on est en train de retirer des petites surfaces qui sont demandées justement par les étudiants d'être au cœur de la ville. Donc on va leur créer des surfaces à l'extérieur de la ville sur lesquelles ils vont devoir prendre des transports. Sauf que Lille a une jeunesse formidable qui vit au sein de la ville. Et là, on est en train de la faire sortir de la ville.
Oui, mais pour l'emploi, c'est-à-dire que le rapport entre le logement et l'emploi est un vrai sujet, et surtout quand on voit effectivement la configuration, on voit bien que les familles aujourd'hui, pour se loger décemment, elles se reportent de plus en plus loin des zones d'emploi ou des bassins d'emploi. Est-ce que ça aussi, vous le constatez ?
C'est historique à la métropole lilloise. Les familles n'ont jamais vécu dans le centre-ville de Lille. Comme Philippe le disait, 75% des propriétaires bailleurs, c'est pour mettre en location. On est sur une ville estudiantine, on est sur une ville qui... Dès lors où on passe la trentaine, qu'on a un souhait de vie de couple, entre guillemets, avec enfants, les communes environnantes de Lille sont déjà plus accessibles pour obtenir des extérieurs et on est sur un cadre de vie qui est beaucoup plus familial. Mais ça, c'est historique. Tous les Lillois vont se retrouver dans cette demande, c'est-à-dire que le logement étudiant dans le Vieux-Lille ou rue Masséna pour faire la fête, et dès lors où on est sur une vie un petit peu plus établie, on va sortir et aller sur les communes environnantes.
Intéressant ce que vous dites. Et donc, les générations, finalement, à un moment donné, on quitte.
Mais qui revient ? C'est-à-dire que la clientèle, on va dire, qui cherche un pied-à-terre va revenir plutôt sur le centre-ville de Lille avec un budget confortable, avec des volumes confortables, chose qu'on n'a pas les moyens de se payer
bien sûr.
Quand on a 30 ans.
C'est clair. Adrien, justement, réflexion sur ce que nous a dit Olivier et aussi sur quid de l'encadrement des loyers. Parce que souvent, faut être clair, on nous a fait le procès, les professionnels de l'immobilier, en disant, oui, c'est normal que vous protégiez les intérêts des propriétaires. Donc, tout ce qui touche à la norme, par exemple, je peux parler aussi des niches fiscales, hein, bien sûr, c'est dans le but corporatiste de protéger les intérêts des capitalistes, propriétaires qui profitent finalement des personnes, etc. Faut juste rappeler, et vous le savez également, que 62% des personnes qui sont dans le marché locatif privé seraient éligibles au logement social. Donc, qu'est-ce qu'on ferait sans les millions de petits propriétaires qui mettent leurs biens en vente ? Voilà, je dis ça, mais je dis rien, hein.
J'ai une vision assez, on va dire, un peu trash hein, de l'encadrement des loyers.
Ah, mais je demande que ça.
Allons-y. Moi, je, voilà, pour moi, donc, c'est une loi qui a été créée, d'ailleurs, à Lille. Hein, on a la, on, nous oui. avons la paternité de l'encadrement des loyers, on a cette chance. C'est une loi faite par une frange politique de gauche, on va dire un peu dure, faite pour protéger une population de locataires, pour faciliter l'accès au logement, qui est une vertu sociale intéressante, hein, je ne dis pas sur le papier. Mais dans les faits, c'est une loi antisociale. Et à un moment donné, il va bien falloir que ces politiques-là l'assument, regardent les chiffres en face. À part restreindre l'accès au logement, quelle a été la vertu de l'encadrement des loyers ? Qu'on vienne me l'expliquer, moi je suis preneur, mais on est venu rajouter une strate administrative sur le propriétaire-bailleur qui a dégradé encore une fois l'offre, et pire encore, on a une partie de nos clients qui passaient par l'intermédiation pour faire gérer leur patrimoine, qui nous ont quittés parce qu'ils voulaient enfreindre, entre guillemets, les règles pour ne pas nuire à leur rentabilité. Et donc, on se retrouve avec des locataires qui n'ont plus en face d'eux des professionnels bienveillants et qui respectent la législation, mais parfois des propriétaires qui veulent, qui louent comme ils peuvent et comme ils ont surtout envie. Et bref, l'intérêt final de la loi est complètement contre-productif. Donc moi, j'ai une vision assez dure.
Alors, je vais vous dire, je vous trouve pas super trash.
Bon, ça va.
Parce que vous pourriez être beaucoup plus. Donc,
vous m'aviez dit que j'étais filmé,
donc,
Sylvain.
Donc, je vais l'être encore plus. C'est une véritable connerie. Et ils paieront le prix de cette erreur. Pourquoi ? Ce qui est dramatique, vous voulez que je vous dise, c'est que ce sont les Français qui payent.
Oui.
Ce sont les mal logés qui payent.
Mais je suis entièrement d'accord avec vous.
Et là, avec Philippe, on connaît bien le sujet. Philippe, on peut. Tout à l'heure, vous avez
l'encadrement
dit.
L'encadrement a créé l'inflation des prix.
Oui.
Quand ça a été mis en place, c'est cette usine à gaz. Hein. C'est une usine à gaz. Oui. Hein. Je regarde, le secteur proche d'Adrien, l'entrée de la rue de la Bassée. Je dis, tiens, c'est bizarre. Rentrée de rue de la Bassée, rue Pierre-le-Grand. Rue Pierre-le-Grand, c'est plus cher. Je sais pas normal. J'appelle, et c'était l'OLAP.
Oui, absolument.
Observatoire des loyers de l'agglomération parisienne. Téléphone, la personne me dit non, ça a été calculé d'ailleurs dans nos. Mais oui, mais Five, c'est plus près de la gare. Je dis Five. Ah oui, je dis Five. Parce qu'en fait, le quartier s'appelle Five. Elle dit oui, enfin, je ne suis pas d'ici. Et donc,
c'est bon, ça,
on avait là la démonstration très claire.
Tu lui as dit qu'on ne parlait pas encore américain. Hein,
voilà. Que tout ça n'avait peut-être pas d'importance au final, j'en sais rien. Mais malheureusement, c'est avec ça qu'on doit gérer et fixer les loyers. Voilà.
De toute façon, la statistique, elle est simple. Régis en a parlé. Les loyers des studios ont pris 50 euros en 3 ans, 2 ans.
Non, juste...
2 ans.
Juste là, oui, 2 ans.
2 ans.
2 ans.
Voilà. Voilà le bilan de l'encadrement des loyers à Lille. Il n'y a pas besoin de, donner plus. C'est-à-dire qu'on a connu on a une inflation du prix du loyer. Alors, il y a d'autres facteurs, mais en partie grâce à l'encadrement des loyers. Donc, le débat devrait être clos. Voilà.
Mais le débat, il sera clos par les urnes, je vous le dis. Actuellement, on va vivre des moments qui ne vont pas être des moments simples. Hein. Je peux vous dire que dans certaines régions, vous savez, la France des oubliés, la France qu'on ne voit pas, la France de la ruralité, la France qu'on a laissée tomber, c'est 20 millions de personnes. Hein. 20 millions de personnes. Ceux qui sont en dessous des radars sociaux. À un moment donné, il faudra quand même bien s'en préoccuper. Il n'y a pas si longtemps, j'étais à Roubaix et je peux vous dire que ce que j'ai vu, c'est pas franchement réjouissant quand on voit ça. Et je vais même aller plus loin, c'est presque criminel dans une certaine mesure. Puisque le logement, c'est le lieu protecteur. Vous savez, dans la vision reptilienne de l'homme, le lieu protecteur, c'est le lieu où on s'abrite. Vous voyez, c'est basique, hein, mais ce n'est pas qu'une question d'argent et qu'une question de capitaux. Alors justement, on va emboîter le pas. L'encadrement des loyers, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'INSEE a publié un rapport. C'est dramatique, hein, ce rapport. Hein, il est incroyable. Je vous donne deux autres chiffres. Il y a 2,5 millions de familles, mesdames et messieurs, qui sont en attente de logements sociaux. Vous savez depuis combien de temps ? 10 ans, en moyenne. 10 ans, en moyenne. Quand on a répertorié le nombre de personnes mal logées, c'est-à-dire mal logées, c'est-à-dire je suis chez tonton, tata, je suis en état de transit, je ne suis pas à la rue, hein. C'est 4,5 millions de personnes qui sont dans des situations de logement pas indignes, mais on n'est pas loin du décrochage social.
Fait.
Quand on prend le nombre de SDF, il a doublé en 5 ans. Doublé en 5 ans. Et vous savez, ce qu'on appelle ça la relégation sociale. Vous savez, vous plongez, vous êtes licencié, vous perdez votre boulot. d'accord, vous avez un crédit, une famille, très très vite vous pouvez décrocher, vous retrouver au-dessous des radars sociaux, sans compter, si vous voulez, le système de représentation sociale qui est terrible pour eux. Mais il y a un chiffre qui est quand même important, je ne sais pas si vous l'avez vu, mesdames et messieurs, ça a été par nos confrères de France 2, un reportage sur les enfants de moins de 5 ans qui dorment à la rue tous les soirs à Paris. Il y en a 2000. Et sur les 2000, il y a 1300 enfants qui ont moins d'un an. Voilà, je vous le dis, je l'ai vu de mes propres yeux, et je peux vous dire que on peut avoir tout le béton qu'on peut avoir dans son expérience, on ne peut pas rester insensible à cela. Et c'est là qu'on a besoin. Et vous voulez que je vous dise une chose ? Ceux qui ont agi pour l'hébergement d'urgence, vous savez qui c'était ? C'était les agents immobiliers qui se sont mobilisés dans une chaîne, finalement, de soutien grâce à des réseaux coopératifs et à des réseaux immobiliers qui ont pallié. Vous savez, un peu comme ce que vous aviez fait, ce qu'avait fait la corporation, les professionnels de l'immobilier pendant le Covid. Si vous deviez aujourd'hui donner une solution, vous, Adrien, de votre point de vue, avec l'expérience que vous avez, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour relancer le marché du logement ? On sait que l'État, on ne peut pas compter dessus. Qu'est-ce qu'on devrait faire ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui ?
Malheureusement, on aura quand même besoin un petit peu de l'État, à mon sens. J'ai écouté avec attention Pascal Boulanger, le président de la Fédération des promoteurs, la semaine dernière, parce qu'il y avait la soirée de l'immobilier des promoteurs à Lille.
Oui, très énervé.
Très énervé, mais qui nous expliquait de manière très pragmatique, là aussi, moi j'aime bien les chiffres, qu'un dispositif type loi Pinel fait gagner de l'argent à l'État. C'est bénéficiaire fiscalement. Et c'est quelque chose qui marche. Commercialement, la loi Pinel fait vivre la promotion. C'est un produit attractif pour les investisseurs, pour les épargnants. Et ça crée quand même une offre locative avec des loyers accessibles et modérés, avec une offre de qualité. Je suis sans doute un peu bête, mais je comprends pas pourquoi les choses qui ne coûtent rien à l'État, qui au contraire en font gagner et qui ont un intérêt social, pourquoi on les stoppe en fait ? Ça, c'est quelque chose qui me... Parce que de toute façon, on est tous d'accord pour dire qu'il manque d'offres, donc de l'offre, il faut en créer. Et autant utiliser des méthodes qui fonctionnent.
Alors, vous avez raison, puisqu'on estime à peu près que la dépense est entre 39 et 42 milliards d'euros des aides publiques avec l'État directement et indirectement, et environ avec la TVA et avec les recettes fiscales, on est environ à 96 milliards d'euros.
C'est le sujet 1, mais qui est quelque part secondaire. Je voulais parler de la loi Pinel, donc j'ai commencé par ça. Mais après, le vrai sujet, c'est la pression fiscale sur le bailleur aujourd'hui. Le vrai souci, c'est là. Aujourd'hui, vous investissez dans un studio... bon père de famille à l'impôt sur le revenu, vous avez une pression fiscale entre la CSG, l'IR, les taxes foncières qui ont pris 30% avec la suppression de la taxe d'habitation.
Et qu'est-ce qu'ils font les propriétaires en ce moment ? Ils louent plus. Ils désinvestissent.
Exactement. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais j'ai lu très récemment un chiffre sur la vacance de logements en France, mais elle est monstrueuse.
Absolument.
En fait. Monstrueuse. Et pourquoi les gens ne louent pas ? Parce que la pression administrative et fiscale est complètement décorrélée de la réalité de ce marché.
On estime la vacance locative, par exemple à Paris, entre 10 et 15%. Et d'ailleurs, notre maire de Paris, qu'on adore, hein, on aime beaucoup la maire de Paris, envisage de carrément saisir les biens qui sont vacants.
Arrêtons de considérer les bailleurs comme des rentiers vaches à lait.
Bien sûr.
Mais comme le bailleur doit être... C'est un acteur d'utilité publique.
On est d'accord.
Et ça, il faut que les politiques le comprennent. Je pense que certains l'ont peut-être compris. Comme vous dites, Sylvain, rendez-vous dans les urnes.
Philippe, justement, quand on fait cette lecture justement de la crise et qu'on est aujourd'hui un jeune professionnel de l'immobilier, où on se projette aussi dans un avenir, on sait qu'on en a besoin. On sait qu'on en a besoin. On sait qu'on a un État aujourd'hui défaillant. Alors, défaillant jusqu'en 2027. Et puis on va avoir, on vit encore en démocratie, donc on peut espérer un rebond. Vous savez, il peut peut-être toucher par la grâce et trouver un peu les solutions. Justement, quand on prend ces éléments-là, il a raison, Adrien. Zéro artificialisation nette pour la promotion. Fin du Pinel, rien ne la remplace. C'est unique, hein. Vous savez que ça...
C'est 40 ans.
Oui, absolument. Depuis 40 ans, on avait la loi Imeniori, on a eu Pierre-André Périssol, qui a été un grand ministre du logement, on a eu des dispositifs, on a même un ministre...
On a même eu la loi Duflot.
Absolument. Ouais. On a eu le De Normandie dans l'ancien, qui est quand même une
mesure... Et pourtant,
une
mesure on ne peut pas dire qu'elle nous aimait bien.
Voilà. Mais d'ailleurs, on peut dire... Je vais vous dire, merci Cécile Duflot, parce que sans cela... On n'aurait peut-être pas bien ici aujourd'hui. Vous savez, c'est ce qui a uni la profession. Bien ici est né d'un constat de prise en main de votre destin à vous avec un des premiers portails d'annonces immobilières, et c'est la naissance de Bien Ici. Philippe, voilà, si on fait le bilan, alors c'est sûr que quand en ce moment, rentrer dans l'immobilier, c'est pas évident, et pourtant, ça reste toujours le plus beau métier du monde.
Ah oui, parce que 15 ans d'enseignement à la fac, certains qui me rappelaient des choses récemment, on aime les gens avant les biens. C'est fondamental. On fait une mise en relation entre un vendeur, un acheteur, entre un bailleur, un locataire. Rien n'est facile. Mais quand même, faire en sorte que quelqu'un trouve son petit bonheur ou ce qu'il recherche ou ce qu'il a en lui et qu'on aide aussi parfois, souvent, à la prise de décision. Je dis souvent, il va falloir traverser la rue, lui donner la main, mais qu'il ne sache pas qu'on a donné la main. Ça ne va pas le prendre une décision. C'est quand même formidable. Ensuite, il n'y a pas un bien qui se ressemble. Donc, il n'y a pas un vendeur qui se ressemble, il n'y a pas un bien qui se ressemble. Ça donne quand même beaucoup de richesse. Il n'y a rien de standard. Il n'y a que des choses qui bougent. Un peu moins de matraquage législatif ou d'avalanche sur le sujet serait quand même fort sympathique. Ce qu'a dit Adrien, il y a un sujet qui est la fiscalité. La fiscalité aujourd'hui est matraquante et personne ne s'en rend compte. Et on dit on pourrait encore aller en rechercher.
Bah oui. C'est ce qu'ils ont fait en supprimant la taxe d'habitation, voilà, qui est compensée par la hausse de la taxe foncière.
Il n'y a pas été cité l'IFI. Allez, on rajoute une couche. Et quand on a cela, certains bailleurs disent mais ça ne sert plus à rien d'être propriétaire. Moi, je vais revendre, je vais rendre liquide, ou je ne loue plus. Et puis après, ben, dans le marché locatif, il y a aussi tous ces petits Airbnb qui se sont créés, des choses, etc. Mais s'il y a des gens qui veulent aller vers ce métier, il faut aimer les gens. C'est la première. Séduire, entre guillemets, votre client, tout en comprenant ce qu'il rêve, ses besoins. On parle de découverte client dans notre jargon, mais le faire exprimer. À titre personnel, j'ai rencontré un excellent agent immobilier quand je voulais lui acheter une 1930, parce qu'il m'a fait construire une maison sur un terrain.
On connaît bien l'idée. Mais encore une fois, vous réalisez les rêves de vos clients, mais surtout, vous agissez pour le bien commun. On voit bien qu'il y a un vrai sujet autour de l'existence même de vos métiers. Rappelez-vous qu'il y avait une loi qui a été retiré. Hein. Vous vous rappelez, le ministre Lefebvre sous Sarkozy, hein, avec sur le mandat, on avait dit, voilà, fini. La loi de l'article 68 du PLF, il y a 4 ans, qui plafonnait les honoraires d'intermédiation pour le neuf, avec une tentation de plafonner vos honoraires. Effectivement, ils y sont arrivés pour la location.
Ah bah, la location, ça fait 10 ans qu'on attend une revalorisation, je crois que c'est 11 maintenant.
Non, mais ça veut dire quoi ? Non, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, c'est la tarification du prix du pain, vous savez ? Donc, alors, OK, à la limite, on va jouer le jeu. Jouons au jeu. À ce moment-là, vous êtes des délégués ministériels, vous avez une signature publique, comme les huissiers. Vous savez que les huissiers, automatiquement, peuvent devenir administrateurs de biens. Vous avez une délégation, sauf que, en fait, on vous a transféré des compétences sans y associer les recettes, bien évidemment, et on vous fustige en plus. Et vous avez dit une chose très importante, je voudrais juste dire un mot pour ceux qui nous écoutent. Vous avez dit, nous, les agents immobiliers, les professionnels de l'immobilier, les ADB, par exemple, nous, on est soumis à des contraintes fiscales, des contraintes réglementaires et une responsabilité pénale engagée à l'égard de ces locataires. Et vous avez des propriétaires qui lui disent bah, « Vous êtes bien gentil, moi, l'encadrement dans le loyer, j'en veux pas, et ma passoire thermique, je vais la louer. » Il y a
Et le permis de louer, je m'assieds dessus.
Et le permis de louer, je m'assieds dessus. Et surtout, vous savez, je vais vous dire, quand on est désespéré...
Mais vous savez que le permis de louer, il y a une stat hyper intéressante qui n'est pas très à jour, mais je pense pas que ça ait beaucoup évolué. Vous le savez, l'administration de biens, c'est à peu près un tiers du marché. C'est-à-dire qu'un tiers des propriétaires bailleurs passent par de l'intermédiation pour faire gérer leur immobilier. Les demandes de permis de louer à la mairie de Lille, plus de 95% venaient des professionnels. Donc on a 33% de part de marché et on est 95%.
Et vous voulez que je vous dise quel est le nombre de commissaires, par exemple, dans la plus grande métropole où il y a un cinquième de la population française ?
Écoute.
10. Il y a 17 millions d'habitants entre Paris et l'Île-de-France. Ça veut dire que c'est plus qu'un non-sens. Et vous n'enfreignez pas la loi, Philippe, Adrien, Olivier, vous n'en
on
prenez pas,
pas
la main.
Nous avons des parce contrôles que... réguliers.
Absolument.
La DGCCRF connaît nos adresses.
Absolument.
Voilà.
Et donc, pour conclure, on va essayer de finir sur une bonne note, justement, et on va passer à notre séquence. Vous savez, le côté bon plan, voilà, on va dire, voilà, est-ce qu'il est toujours bon d'investir ? C'est de se dire, finalement, qu'on revient aux fondamentaux et que tout bouleversement est propice à un changement, et que c'est peut-être aussi une façon résiliente. Mais pour ça, il faut être une chose, ce que vous êtes tous, messieurs, c'est des entrepreneurs. Voilà. Et que l'entreprise en France a encore aujourd'hui beaucoup de foi, beaucoup d'enthousiasme. Et de cela, je vous en remercie. Je vous propose, les amis, une petite séquence très rapide. C'est la bonne affaire du moment.
Bien ici, bien chez vous, la bonne affaire du moment.
J'adore cette séquence. Je vous le dis, j'adore cette séquence. C'est le bon plan. Alors, à qui je vais m'adresser pour essayer de me trouver un bon plan ? Allez, je vais lancer sur Olivier.
Est-ce que, sur le
voilà.
bon plan du moment ?
Alors, j'irai le bon plan. Alors, je vais vous demander de nous faire rêver tout à l'heure, d'ailleurs.
Il y a
également
un petit bon plan du moment qui ouais. corrobore justement ce que disait Adrien.
Où est-ce qu'il faut investir ? Ouais. Où est-ce qu'on peut
profiter des derniers avantages liés à la loi Pinel. Il nous reste 2 mois.
Mais oui.
Et c'est le moment, puisque après, il n'y aura plus d'avantages fiscaux okay. liés à l'investissement locatif.
Ok. Est-ce que vous avez un peu de stock ? On peut encore acheter ?
Il nous reste encore un peu de stock, du stock livrable 2024, voire 2025.
Ok.
Et tout ce qui est acte authentique passé avant le 31 décembre, quelle que soit la date de livraison.
Donnez-nous envie. Où ? Il y a un programme où on peut.
Sur la métropole.
Sur la métropole ?
Sur toute la métropole. Après, on peut aussi aller sur des villes moyennes comme Valenciennes, qui sont des villes étudiantes également sur lesquelles il manque des.
Rappelez que le Pinel, pour les investisseurs, c'est toujours aussi valable, hein, pour les 2 mois qui restent.
Hein. C'est toujours valable.
Acté, à condition
qu'il faut acter. Acté avant le 31 décembre 2024, ouais. sachant qu'on en attend toujours de la prolongation des 3 mois jusqu'au 31 mars 2025
okay.
pour tout contrat de réservation. Avant le 31 décembre.
Alors, quand on ira boire un verre tout à l'heure, on va en parler, justement. Vous allez m'en
avec
parler.
Avec plaisir.
Justement, parce que justement, il faut que je fasse un peu de Pinel. Voilà. Commencez par soi-même. Merci pour cette séquence. Je vous en propose une autre, vous êtes d'accord ? Un bien qui nous ferait rêver. Une idée un peu comme ça sur le bien qui nous fait rêver. Alors, ça peut être un bien de luxe, ça peut être un bien de charme. Voilà, l'idée, laissez vagabonder votre imagination. On envoie la séquence.
Bien ici, bien chez vous. Ça fait rêver.
Messieurs, je vous lance l'information. Olivier, Philippe, Adrien, est-ce qu'il y a un bien qui peut nous faire rêver, que vous avez en stock, qui est canon, qui a un charme, pas forcément le plus cher, mais qui a vraiment un cachet particulier ?
Compte tenu de l'offre actuellement, on va trouver plusieurs possibilités
voilà.
de
charme. Il y en a une qui vous vient à l'esprit, là ?
Tout dépend des budgets, c'est toujours pareil.
On va dire nos limites, voilà.
Rêvons.
Oui, l'on limite, voilà.
Bon, une belle maison de charme autour du parc Barbieux, avec 6 chambres, chacune leur salle de bain. C'était un peu un esprit co-living.
Superbe. À quel prix ?
988.
988 000 euros ? Est-ce qu'on peut négocier un peu ?
Les prix,
Moi, souvent, quand on me dit ça, je dis qu'il faudrait visiter d'abord.
Bien.
C'est une bonne réponse.
Voilà, mets-toi en boîte. Alors, justement, Philippe, comme ça, de mémoire, comme vous avez un bien qui vous fait rêver, ou qui vous a fait rêver, d'ailleurs, une belle aventure ?
Alors, on peut partir sur différents sujets, mais moi, j'aime bien la maison, parce que, bon, c'est peut-être aussi mon mode de vie personnel. Mais vous avez une maison sur Capinghem, qui est quand même un lieu assez recherché, qui n'est pas encore trop loin, qui est près de l'Homme, sur 660 000 euros, et pour laquelle, eh bien, je vais dire, il faut faire une visite. Vous avez un très beau séjour de 60 mètres carrés, et surtout, moi, j'aime bien regarder la vue et le vis-à-vis. Quand j'enseigne aux étudiants, je leur dis, il y a différentes choses, la surface, mais l'environnement, la vue vis-à-vis. Et quand on regarde bien ces éléments-là, finalement, c'est ce qu'on va vivre tous les jours, quand on est assis dans... Quand un acquéreur vient et qu'il y a encore les meubles qui sont là, je demande au propriétaire et je lui dis, ne soyez pas étonnés si je leur propose d'aller s'asseoir, c'est-à-dire de se mettre en situation. Et quand les gens acceptent et qu'ils sont dans le salon et qu'ils se regardent en disant, on est pas mal ici, on est bien ici, c'est pas mal.
Marquez, je vais vous dire, le bon coin pour bien se loger, c'est bien ici. Donc, c'est vrai, ça.
Sinon, j'irai chercher à la MEPI chez l'un de mes confrères si je n'ai pas l'offre.
En tout cas, je suis ravi de vous avoir reçu. Il est l'heure de conclure, parce que toute bonne chose a une fin, bien évidemment. Ce qu'on peut dire finalement en conclusion, c'est que la ville de Lille, vous êtes d'accord, reste une valeur sûre.
Ah oui, on est d'accord. Sûr.
Une attraction qui ne s'est jamais démentie, même en période de tourmente. Et ça, vous avez su le démontrer. C'est un marché finalement qui atteint un plateau. Et donc, on va dire... On va rester sur des bons standards. Je voudrais qu'on remercie bien évidemment toutes nos équipes, les équipes notamment de Bien Ici, qui ont permis de réaliser cette émission. Et avec ce Tour de France, que l'on va commencer aussi, on repart sur les routes de France en 2025. Voilà, merci à Didier Monnet, merci à Philippe Deniniville, merci à Régis, à Zineb, à toutes les équipes qui ont organisé l'émission. Voilà, vous êtes tous très nombreux, je ne peux pas vous citer tous, mais c'était vraiment... un vrai grand moment de partager ça avec vous. Pour du côté de Radio Imo, Lorenzo Magnifico, qui est de l'autre côté, merci. Voilà notre super régisseur, notre réalisateur Théo Benoît-Hambourg également, qui est à la régie, notre directeur et réalisateur Alexandre Burkhardt, et bien sûr notre producteur Grégoire Daricot. Il me reste à vous donner rendez-vous, bien évidemment, pour une prochaine date sur les routes de France, bien chez vous, bien ici. Ce sera bientôt, bien évidemment, en podcast. Et vous pouvez... comme c'est l'usage, télécharger l'émission, la voir en partie ou une partie qui vous intéresse, quand vous le souhaitez. D'ici là, vous prenez soin de vous et on vous souhaite que des bonnes choses.
Bien ici, bien chez vous. Une émission proposée par Bien ici, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.